Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce fameux numéro dont je vous avais un petit peu teasé la semaine passée qu'on allait très certainement écouter et observer, disséquer même une œuvre absolument extraordinaire du répertoire de musique liturgique. Donc ça y est, c'est bien aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour parler d'un nouveau chef-d'œuvre que vous connaissez peut-être, d'autres vont le découvrir avec nous et j'en suis extrêmement heureux. Il s'agit du Requiem de Maurice Duruflé. Si j'ai choisi de vous parler de cette œuvre, c'est non seulement parce que je l'aime infiniment, je trouve qu'elle est d'une très très grande beauté, vous allez pouvoir le constater vous-même. Et c'est également parce qu'avec la Schola Cantorum, que je dirige, vous le savez maintenant, à la Basilique Saint-Sernin de Toulouse, nous allons le donner en concert les 8 et 9 mars prochains avec Michel Bouvard, rien que ça, aux grandes orgues historiques Cavaillé-École de la Basilique Saint-Sernin. Donc si ce n'est pas fait, réservez votre date parce que ça risque d'être deux concerts absolument extraordinaires, donc les 8 et 9 mars. Prenez vos places, ça va être extraordinaire, de la très très belle musique. Si j'ai décidé de vous en parler maintenant, alors vous le savez, c'est que cette semaine va commencer le carême, avec le mercredi décembre, puis le premier dimanche de carême, et je voulais qu'une œuvre vous accompagne durant la durée du carême, c'est pour ça que je décide de décomposer un grand morceau en une série, de sorte à ce qu'on puisse vraiment aborder le fond des choses, vous et moi, et que quand on écoute la musique, on puisse comprendre tous les tenants et aboutissants. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est ni plus ni moins un grand, très grand cours de solfège pour qu'on puisse comprendre tout simplement et toucher du doigt ce que le compositeur a voulu nous faire comprendre au travers de cette œuvre absolument extraordinaire. Et j'espère que vous allez l'apprécier parce qu'elle est assez spéciale à plus d'un titre. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, ce Requiem, c'est l'opus 9, donc dit comme ça, on peut se dire que c'est pas beaucoup ou que c'est une œuvre de jeunesse. Attention toutefois, Duruflé a écrit beaucoup de choses, mais c'était un éternel insatisfait. Il a détruit une énorme partie de sa production et sachez-le, le Requiem a failli finir dans la cheminée. C'est sa femme qui a jugé que eh ben là, il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau musical et Dieu merci, elle a eu raison de protéger cela. Aujourd'hui donc, nous avons les trois versions du Requiem. Une première qui avait été décidée par le compositeur pour les chœurs et un grand orchestre. Une deuxième version, celle qui va nous intéresser, plus liturgique, pour orgue et chœur. Et enfin, une dernière version avec un orchestre un petit peu plus réduit et bien entendu, le chœur. Donc Duruflé était un compositeur de génie, ça vous le savez. Vous savez que j'aime infiniment son style puisque je vous en avais déjà parlé. Je vous avais également dit que c'était un compositeur très intéressant d'un point de vue de l'écriture parce qu'il se resservait entre autres choses. Il a été bien entendu capable de composer des multitudes de choses sans avoir besoin de cette fameuse béquille-là. Mais il était fan de Grégorien et comme il contestait beaucoup certaines réformes, en particulier quand Vatican II est passé, lui il a été très contestataire de cela parce qu'il jugeait que c'était une perte pour le chant antérieur et en particulier le chant grégorien qu'il affectionnait complètement. Je vous ai déjà dit qu'il avait composé certaines choses en référence avec le grégorien, notamment ses motets sur un thème grégorien, également la messe Cum Jubilo et naturellement donc son Requiem issu de la messe des morts grégorienne. Donc là, vous allez l'entendre, le grégorien va baigner toute l'œuvre et à côté de ça, c'est ça qui est extraordinaire, il va l'harmoniser, c'est-à-dire lui donner les couleurs du XXe siècle avec sa propre sensibilité. Et à côté de ça, ben, je vais vous le dire, c'est un chef-d'œuvre total, cette façon de sublimer le grégorien. C'était également assez difficile parce que le grégorien, c'est une écriture qui est extrêmement linéaire. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est le souffle, c'est l'anima. Songez que pendant longtemps, le grégorien n'a jamais été écrit. Songez ensuite que quand il a été écrit, il n'y avait pas de barre de mesure, il n'y avait pas de portée. C'était sur des parchemins horizontaux, de sorte à ce que ça puisse avoir un véritable rapport avec le souffle. Donc c'est une écriture très vaporeuse presque, qui a un rapport avec l'âme, l'anima, et c'est ça qui est extraordinaire. Sauf que à l'époque où Duruflé compose, au milieu du XXe siècle, puisque c'est une œuvre qui a été achevée en 1947, donc quelque chose d'assez tardif, eh bien, on est dans une métrique totale, c'est-à-dire des mesures, etc. Alors comment ce compositeur génial a réussi à mettre en adéquation ce grégorien si aérien, si vaporeux, avec cette partition orchestrale ou d'orgue qui, elle, suit les diktats, si l'on ose dire, de l'écriture moderne. Et bien entendu, vous allez l'entendre, les artifices sont nombreux et quand c'est fait avec talent, ça donne un chef-d'œuvre absolu comme le Requiem de Duruflé. Alors, c'est une œuvre absolument extraordinaire qui nécessite deux solistes, un mezzo-soprano et un baryton, encore que la partie de baryton peut être, selon les dires du compositeur lui-même, chantée par le chœur d'hommes seul. Donc là, c'est à voir selon. Également, le compositeur aimait que l'on puisse adjoindre un chœur d'enfant à cette composition, et là, ça permettait également de donner une autre ampleur à l'œuvre. Alors, c'est une œuvre qui comporte 9 mouvements et qui n'inclut pas, ça c'est une petite spécificité, le dies irae, la colère de Dieu. Toutefois, vous verrez qu'il y a une référence qui est faite dans l'un des morceaux, le Liberame. On aura le temps d'y revenir un petit peu plus tard. Donc, au lieu de cela, au lieu d'évoquer cette colère, pardon, de Dieu, Durufle a choisi des textes qui étaient beaucoup plus calmes et beaucoup plus méditatifs, du requiem, traditionnel grégorien. Et ce qui donne une impression quand même assez paisible. Il est très difficile également de vous parler du requiem de Maurice Durufle sans évoquer le requiem de Gabriel Fauré. Alors certes, celui de Gabriel Fauré n'a pas repris des éléments du plain chant, lui. Mais on ne peut pas penser qu'il n'y ait pas de référence à l'œuvre de Gabriel Fauré. Évidemment, l'œuvre de Gabriel Fauré a permis celle de Durufle, et vous allez voir qu'il y a quelques petits clins d'œil qui apparaissent tout au long de l'œuvre. Alors c'est quelque chose de très différent. Autant le Requiem de Gabriel Fauré, je vous en avais déjà un petit peu longuement parlé, vous savez que la Schola Cantorum de Saint-Cernin a enregistré un disque dans le cadre du centenaire de Gabriel Fauré. Donc là aussi, je vous enjoins à nous soutenir, à soutenir la Schola en achetant notre CD. Il suffit que vous allez sur notre site, hein, vous tapez Schola Saint-Cernin et vous avez ce disque-là. Donc merci de nous soutenir si ce Requiem vous plaît, celui de Fauré. Mais vous allez voir, celui de Durufle n'est pas en reste, bien entendu. Donc, on va maintenant faire place, si j'ose dire, à la musique. Et là aussi, comprenez qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que l'analyse est bien entendu profonde. Parce que dès qu'on parle de musique finalement du XXe siècle, il y a beaucoup de choses qui sont figuratives et d'autres choses qui sont beaucoup plus abstraites. Et le but du jeu, c'est de vous donner, comme d'habitude, des clés de lecture qui vous permettront de comprendre là où le compositeur a bien voulu aller. Donc aujourd'hui, vous remarquerez que je parle longtemps et je vais encore parler longtemps sans mettre de musique parce que on va donc découper, pour que vous puissiez avoir votre petite série du carême, si j'ose dire, on va découper le Requiem en plusieurs parties, en 4 parties, et on va commencer avec les 2 premiers morceaux. Sauf que le compositeur a désiré que les 2 premiers morceaux soient collés. Donc je vais aller avec la volonté de Durufle et je ne vais pas vous couper les 2 morceaux, donc je vais vous faire l'analyse des 2 morceaux d'un coup et comme ça vous pourrez avoir toutes les clés de lecture. On commence tout simplement par l'introït. L'introït, c'est le début de la messe, c'est pas vraiment l'entrée, c'est un petit peu le thème qui va nous permettre de savoir quelle est l'ambiance de la messe, si j'ose dire. Et par l'introït, évidemment, c'est ce qui donne son nom à l'œuvre, puisqu'on commence par les paroles Requiem aeternam. Donc il y a cette dimension d'éternité et de mort qui arrive tout de suite, dès le début de l'œuvre. Donc l'introït, et qui est immédiatement suivi par le Kyrie, dont je vais également vous parler. Alors, on va commencer tout simplement cette analyse musicale avec l'orgue, puisque c'est lui qui démarre l'œuvre. C'est pas le chant qui va arriver légèrement après. Et d'ores et déjà, dès la première mesure, on peut voir qu'il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer. Alors, on va commencer tout simplement par la pédale de l'orgue qui va tout de suite donner le ton, si j'ose dire. Alors vous allez voir, je vais, pour disséquer cette œuvre et pour que vous compreniez un maximum les choses, eh bien j'ai mon piano à côté de moi, et donc comme ça vous pourrez comprendre un petit peu toutes les petites astuces. On commence donc, je vous le disais, avec la pédale du piano. Alors ceux qui le connaissent ont peut-être déjà reconnu quelque chose, c'est le début du Requiem de Fauré. Cette basse de Ré toute seule, qui ne demande finalement qu'à être remplie par un accord parfait, lequel on ne sait pas, en l'occurrence pour Fauré c'est Ré mineur, eh bien il y a cette espèce de première référence avec cette tonalité extrêmement grave de Ré, d'ailleurs qui se complète juste au-dessus par la main gauche. Donc si on remplit l'accord, vous avez cet accord parfait de Ré mineur, qui annonce tout de suite la couleur, hein. C'est quelque chose d'assez plombant, d'assez lourd. Sauf que Durufle, là, a un coup de génie, il fait par-dessus ça une dentelle que voici. Et en fait, si on analyse ça On peut se dire, mais attendez, là, où est cette fameuse tonalité, où est cette couleur de Ré mineur? Ici, elle est très différente. On pourrait largement croire en du Fa majeur, qui est cette tonalité qui est ici voulue. Et la tonalité de Fa majeur, ça veut dire totalement autre chose. C'est quelque chose de très différent, c'est quelque chose d'un petit peu plus léger. Et alors, quand on additionne les deux, voilà ce qui se passe. Et donc il y a d'ores et déjà une espèce d'ambivalence qui est mise en place entre le côté extrêmement dur, extrêmement plombant presque de Ré mineur, avec ce Fa majeur qui lui, un petit peu évanescent comme ça, avec ses quatre doubles croches, qui donne envie d'avoir quelque chose qui avance. Et en fait, cette chose qui avance, c'est tout simplement le chant qui va se mettre en place et qui commence par les hommes. Et ça, c'est ni plus ni moins que le thème grégorien tout nu. C'est-à-dire que là, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Et là, vous entendez cette espèce de tonalité de Fa majeur qui rejoint le... Là, on est pleinement dans cette mouvance-là. En plus, ce début d'œuvre est lancé par les hommes seuls, parce que ce sont les basses et les ténors qui chantent, les femmes ne chantent pas. Elles arrivent à la fin de la phrase... en ne prononçant pas un mot, c'est juste une syllabe, A, et vous voyez que là, on reste dans cette espèce de volonté d'évanescence qui vient contraster avec le côté métronomique de l'orgue. Côté métronomique, d'ailleurs, qui est marqué par la pédale qui fait... Finalement, comme s'il y avait une espèce de marche funèbre inarrêtable, inexorable, qui allait vers la mort du défunt. Donc quelque chose d'assez dur. Et à côté de ça, vous avez les femmes qui, en disant « Ah !» vraiment comme si c'était l'âme qui s'échappait de leur bouche, qui viennent sublimer cette musique-là. Et ensuite, les hommes reprennent « Dona eis, dona eis », presque comme une imprécation, et qui viennent véritablement remplir, tout simplement avec le thème grégorien. Et là, on peut se poser la question... qu'a voulu dire le compositeur? Pourquoi finalement on a cette espèce de, comme si on avait deux tonalités en même temps, celle de Ré mineur et celle de Fa majeur? Et bien tout simplement c'est pour laisser l'espace. On ne sait toujours pas sur quel pied danser entre le Fa et le Ré. Et finalement la résolution apparaît sur un mot, lux, la lumière, avec un accord La de Ré majeur. Et en fait, quand vous allez entendre la lumière, vous allez avoir les cieux qui vont s'ouvrir avec ce Ré majeur extraordinaire qui vient ouvrir toutes les perspectives du ciel. C'est là aussi, bien entendu, une réussite totale de la part du compositeur. Alors ensuite, si on continue un petit peu dans les œuvres, alors on met un certain temps avant d'avoir tous les choristes qui chantent en même temps, et nous avons un court extrait où les femmes seules interviennent, beaucoup plus léger, avec l'orgue qui les accompagne. Etc, etc, beaucoup plus rythmique. Et là, les femmes chantent un petit peu seules et donnent un côté extrêmement aérien à l'œuvre et qui permet finalement de se dire que le ciel n'est pas si loin. Alors bien entendu, c'est une référence à la fin du Requiem, très imagée, vous allez voir, qui ouvrira les portes du paradis. Mais alors ça, surtout, je ne vous en parle pas parce qu'il s'agit là aussi d'une magnifique pièce. Alors ensuite, on poursuit tout simplement cette introïte avec la phrase rituelle, hein, si j'ose dire, Requiem aeternam, et on continue là-dedans, Dona eis domine et lux perpetua. Donc il y a toujours cette volonté de lumière, etc., et d'espoir, et d'espérance. C'est également tout ce qui est dans le prolongement de cette œuvre. Et ensuite, le morceau se termine avec un grand calme. Un grand calme, c'est une œuvre qui n'est pas du tout violente. Et c'est ce qu'il faut retenir tout simplement au long de ce premier introïte. Et ensuite, je vous le disais, s'enchaîne directement le Kyrie. Alors là aussi, c'est un grand morceau de bravoure. Et dès les premières mesures, on va tout de suite comprendre que quelque chose d'immense va arriver. Alors, les thèmes sont chantés d'abord par les basses, ensuite les ténors, les altos et les sopranes. C'est-à-dire qu'on commence par les voix graves, et ensuite on va vers les plus aigus. Pour un Kyrie, quoi de plus normal finalement? Comme si on allait du péché au pardon, comme si on allait de l'homme à Dieu, comme si on allait de la terre au ciel. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Quand vous entendez donc le thème du Kyrie, là aussi c'est le thème grégorien tout nu, vous l'entendez de cette manière-là, basse. Ténor. Alto. Soprano. Etc, etc. Et à chaque fois, bien sûr, les voix s'ajoutent. C'est-à-dire que on commence avec un homme seul qui crie vers son Dieu, peut-être désespéré, c'est le cas de la mort, mais finalement, il est rejoint par le concert des saints, presque, pour avoir quelque chose de beaucoup plus global, une œuvre qui devient rapidement assez immense. Par la suite, quand tous les chœurs font leur développement autour du Kyrie, l'orgue, lui, n'est pas en reste. Il va faire ce qu'on appelle le thème en augmentation. C'est-à-dire qu'il va prendre le thème que vous venez d'entendre, voilà, qui est chanté par toutes les voix, mais il va le jouer beaucoup plus lentement, c'est-à-dire que ça sera une note par mesure et ça sera joué par les anges. Voici donc ce que jouera l'orgue pendant que les chœurs, eux, continuent leur développement. Etc, etc. Vous reconnaîtrez bien entendu le thème. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est un Kyrie qui est également porteur d'une immense espérance. Vous allez rapidement l'entendre. Les notes aiguës des femmes sont assez extraordinaires. Vous avez notamment une descente sur le Kyrie. Voilà, comme s'il y avait également des mouvements descendants, comme si on nous rappelait sans cesse cette espèce de douleur dans le péché, mais qui en même temps nous donne envie d'aller toujours plus loin et de prier le Seigneur. C'est véritablement ce qui est voulu ici. Ensuite, il y a une deuxième partie, il s'agit du Christé, là qui est un dialogue entre les voix aiguës. Donc là, quelque chose d'assez... On considère qu'on arrive déjà vers le Père, et c'est normal quand on évoque le Christ. Et donc là, finalement, les voix viennent s'imbriquer les unes les autres, viennent se répondre, presque se chamailler, comme s'il était question des tourments. Et en fait, les voix vont se disputer un petit peu le thème, et c'est ça qui est absolument magique dans cet endroit-là, c'est que les femmes presque se chamaillent pour pouvoir monter leur prière vers Dieu. Et ensuite, bien entendu, il y a une reprise du Kyrie qui commence exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on va reprendre avec le Kyrie, pendant que les femmes chantent leur dernier Christé forte, c'est-à-dire très fort pour cette imprécation finale, et on reprend avec les basses qui vont reprendre le Kyrie, puis les ténors, puis les altos, puis les basses. Donc l'entrée finalement se répète de la même manière pour terminer avec des suppliques extrêmement fortes. Il y a de très 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 belles nuances, et finalement, de manière presque surprenante et presque incroyable, on termine avec un accord parfait en fa, et qui là est extrêmement paisible et qui laisse la place, qui s'éteint tout doucement pour laisser la place et la conclusion à l'orgue qui termine avec une grande douceur et presque comme si finalement Dieu avait entendu les prières des personnes qui ont crié vers lui. Maintenant que j'en ai bien parlé, j'espère que vous avez suffisamment de clés de lecture pour apprécier ce qui va suivre. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce fameux extraordinaire requiem de Gabriel Fauré, en tout cas les deux premiers morceaux, l'introït et le Kyrie. C'est une interprétation qui a été faite par Michel Bouvard aux grandes orgues de Notre-Dame du Thor, aux orgues Puget Notre-Dame du Thor, et par le chœur Les Éléments, dirigé par Joël Subiette. Appréciez bien cette musique-là. Et c'est sur la sérénité de cet accord de Fa, enfin bien assumé, que se termine le début du Requiem de Fauré. Voilà, j'espère que ça vous a plu et bien entendu que vous avez envie de découvrir la suite avec moi la semaine prochaine. Je vous rappelle la date du concert de la Scola sur le Requiem de Duruflé. Ça sera les 8 et 9 mars prochains. Réservez la date, ça va être exceptionnel. Très belle semaine à vous et très bon carême.